Les années incandescentes, 15e épisode. Vienne, le 10 mai 1903. Ma chère Mamakam, je vais me rendre à Saint-Pétersbourg pour rencontrer le ministre de la police du tsar, Plev. Je sais qu'il est l'un des responsables des récents massacres de Kitchinev. Je suis conscient de tout cela et je n'oublie rien de ces crimes. Mais suite à l'émotion internationale suscitée par ces massacres, la Russie veut se racheter une bonne conduite. Et peut-être est-ce l'occasion pour nous d'obtenir son soutien pour le mouvement sioniste qui est toujours interdit en Russie. J'ai également prévu de rencontrer le ministre des Finances, Witt, adversaire politique de Plev au gouvernement. Je ne peux négliger aucun ressort pour faire avancer mon projet. Ton fils qui t'aime, Théodore. Saint-Pétersbourg, le 9 août 1903. Mon cher Heinrich, je t'écris de la capitale de la Russie tsariste. J'ai rencontré Plev. Tant que ma mémoire est fraîche, je recopie ici les extraits les plus importants de notre entretien, qui a tout de même duré 2 heures. Voici comment j'introduisis mon affaire. Excellence, j'apprends par des sources tout à fait fiables qu'un sentiment de désespoir commence à s'emparer des Juifs de Russie. Ceux-ci ont l'impression d'être livrés sans protection aux mauvais instincts de la populace. La conséquence en est que les adultes sont paralysés par l'angoisse et que les jeunes commencent à écouter les sirènes de la Révolution. Des adolescents de 15 ou 16 ans qui ne comprennent rien à la folie révolutionnaire qu'on leur prêche se laissent abuser par les théoriciens de la violence. C'est le mérite du mouvement sioniste d'avoir, au cours de ces dernières années, donné à tous ces malheureux un idéal plus élevé qui les a consolés et tranquillisés. Votre Excellence est certainement au courant de cela. Plev prit alors la parole.
« Voyez-vous, docteur Herzl, nous voulons assimiler les Juifs. Et à cette fin, nous disposons de 2 moyens, l'instruction supérieure et l'ascension économique. Dès qu'une personne satisfait certaines conditions sur ces 2 plans, de telle sorte que nous pouvons supposer que son éducation ou sa prospérité en fait un adepte de l'ordre existant, nous lui accordons les droits civiques. » Mais cette assimilation que nous désirons ne s'effectue que très lentement. Nous ne pouvons faire bénéficier des bienfaits de l'instruction supérieure qu'un nombre limité de Juifs, sinon nous n'aurions bientôt plus d'emploi pour les chrétiens. Par ailleurs, je suis bien conscient que la situation économique des Juifs vivant dans la zone de résidence est mauvaise. Je reconnais qu'ils vivent là, pour ainsi dire, dans un ghetto. Il faut dire que ces derniers temps, la situation s'est encore détériorée du fait que les Juifs adhèrent au parti révolutionnaire. Sa Majesté le Tsar s'est exprimé au sujet des attaques dont la Russie a fait l'objet ces derniers temps à cause des Juifs. Elle a été extrêmement peinée de voir que l'on osait accuser le gouvernement russe d'avoir participé à l'organisation des exactions, ou du moins de les avoir tolérées passivement. Les gouvernements étrangers, ainsi que l'opinion publique des autres pays, ont certes beau jeu de prendre une attitude généreuse et de nous faire des reproches pour la façon dont nous traitons nos Juifs. Mais s'il s'agissait pour eux d'accueillir comme immigrants 2 ou 3 millions de Juifs pauvres, il tiendrait un autre langage. Pour eux, il n'est pas question d'une solution de ce genre, et par conséquent, ils nous laissent nous débrouiller seuls avec ce problème. Certes, je ne nie pas que la situation des Juifs dans l'Empire russe ne soit pas enviable. En fait, si j'étais juif, je serais probablement moi aussi un ennemi du gouvernement. Mais sur le plan des réalités, nous ne pouvons pas faire autre chose pour améliorer la situation que ce que nous avons fait dans le passé. C'est pourquoi, pour nous, l'établissement d'un État juif indépendant, capable d'accueillir plusieurs millions de juifs, constituerait la meilleure solution. Cependant, nous ne voulons pas perdre tous nos juifs. Les fortes intelligences, et vous êtes vous-même le meilleur exemple qu'il y en a, nous voudrions les garder. Par contre, nous laisserons volontiers partir les faibles intelligences et les éléments pauvres. Voilà, cher ami, le résumé de ma conversation avec cette crapule. Le lendemain, je recevais un télégramme de Londres. Chamberlain, après sa tournée en Afrique, m'indique que nous pourrions établir une colonie juive dans l'est de l'Afrique, en Ouganda. Je lui ai répondu que nous enverrons une commission là-bas pour étudier ce projet. L'Ouganda n'est certes pas la Palestine, mais ce pourrait constituer un refuge temporaire pour les Juifs persécutés. Je poursuivais ma tournée en Russie et rencontrais le ministre des Finances, Witt. Évidemment, il connaissait le but de ma visite, mais fit mine de ne pas savoir qui j'étais. « Vous voulez donc emmener les Juifs ? Êtes-vous hébreu ? En fait, à qui suis-je en train de parler ?»« Je suis hébreu et je suis le chef du mouvement sioniste. »« Vous savez, docteur Herzl, il y a des préjugés contre les Juifs. Il y a des préjugés honnêtes et des préjugés malhonnêtes. » Le tsar a vis-à-vis des Juifs des préjugés honnêtes. On ne peut pas douter de l'honnêteté du tsar puisqu'il se place au-dessus de tout. Les préjugés anti-juifs du tsar sont surtout de caractère religieux. Il existe aussi des préjugés d'origine matérielle provoqués par la concurrence des Juifs. Il y a également des gens qui sont antisémites simplement parce que c'est la mode. Enfin, il y a ceux qui le sont pour des raisons commerciales. À cette dernière catégorie appartiennent notamment les journalistes. Il faut toutefois reconnaître que les Juifs fournissent eux-mêmes suffisamment de motifs pour qu'on les déteste. Ils ont en eux une arrogance caractéristique. La plupart d'entre eux, cependant, sont pauvres. Et parce qu'ils sont pauvres, ils sont sales et inspirent la répugnance. Ils ont aussi toutes sortes d'occupations viles, comme l'usure et le proxénétisme. C'est pourquoi il est difficile aux amis des Juifs de les défendre. Moi, je suis un ami des Juifs. Je me mordis la lèvre pour ne pas lui glisser. Dans ce cas, comment parlent nos ennemis ? Voyez-vous, docteur Herzl, il est difficile de défendre les Juifs, car aussitôt on est accusé d'être vendu à eux. Mais pour ma part, je ne me soucie pas de ces accusations. J'ai cette sorte de courage. Mais d'autres gens, de nature timorée ou arriviste, se laissent influencer par ces considérations et préfèrent se tourner contre les Juifs. À cela s'ajoute depuis peu un facteur important, la participation des Juifs au mouvement révolutionnaire. Alors que sur les 136 millions d'habitants de notre pays, il y a environ 7 millions de Juifs, leur part dans les partis révolutionnaires est d'environ 50%. Je crois que c'est la faute à notre gouvernement. Les Juifs sont trop brimés dans ce pays. J'avais l'habitude de dire au défunt tsar Alexandre III, « Majesté, s'il est possible de noyer les 6 ou 7 millions de Juifs dans la mer Noire, j'en suis parfaitement d'accord. Mais si c'est impossible, il faut les laisser vivre. » J'ai, depuis, gardez cette opinion. Je suis contre toute brimade supplémentaire.
Mais que pensez-vous de la situation présente, Excellence? Croyez-vous que cette situation puisse durer?
Bien sûr que oui! La Russie possède une force de résistance dont on n'a aucune idée à l'étranger. Nous pouvons supporter les plus grandes calamités pendant très longtemps.
Je ne parle pas de la Russie, mais des Juifs. Croyez-vous que les Juifs puissent supporter encore longtemps cette situation désespérée?
Ma foi, comment y échapperait-il?
Dès lors, je lui exposai mon projet sioniste en répondant à toutes ses objections.
Mais qu'attendez-vous du gouvernement russe?
Certains encouragements.
Mais on donne aux Juifs des encouragements à l'émigration, par exemple les coups de pied.
Ce n'est pas ce genre d'encouragement dont je veux parler. Ils sont connus.
Soit, docteur Herzl. Et à quelle distance des lieux saints pensez-vous vous installer?
Il me semble que cela soulèverait certaines préoccupations si les Juifs s'établissaient trop près des lieux saints.
Mais alors, Excellence, que dites-vous de la situation présente avec les soldats turcs gardant le Saint-Sépulcre?
C'est moins insupportable que si c'était les Juifs.
Si en peu de temps, des centaines de milliers de Juifs s'installaient là-bas, si l'on créait des hôtels juifs, des magasins juifs, cela pourrait blesser la sensibilité chrétienne.
C'est sur ces mots que je pris congé du ministre du gouvernement russe.
Mon séjour à Saint-Pétersbourg terminé, je me suis arrêté à Vilna, sur le chemin du retour vers Vienne. Ici, près de la moitié des 150 000 habitants sont juifs. Cette journée restera pour moi inoubliable, et ce n'est pas là une phrase de circonstance. Mon arrivée dans cette ville de la Pologne russe, à midi, fut déjà marquée par des ovations. Je dois dire que je n'aime pas cela. Il y a d'habitude, dans ce genre de réception, une part de mise en scène et d'emballement stupide. Mais cette fois, ce fut plus sérieux, car la situation devint plus dangereuse à partir du moment où la police, qui d'emblée m'avait consacré une extrême attention, avait interdit tous les rassemblements et même ma visite à la synagogue. Je me rendis tout de même un peu plus tard à travers les rues juives où régnait une grande excitation, dans les locaux de la communauté, où ses chefs et diverses délégations m'attendaient en une foule compacte. Dans les discours de bienvenue que l'on m'adressa, il y avait un ton qui m'émut à tel point que je n'aurais pu retenir mes larmes si je n'avais songé à ce qu'en diraient les journaux le lendemain. Dans ces nombreux discours, ma personne fut évoquée en des termes qui contenaient d'énormes exagérations. Mais le malheur de ces gens, lourdement brimés, est authentique. Par la suite, toutes sortes de délégations vinrent me trouver avec des cadeaux à l'hôtel. Et devant celui-ci, dans la rue, une foule nombreuse, sans cesse dispersée par la police, se reformait à chaque fois. Les autorités me firent passer un message me demandant de ne pas circuler en ville. Dans la soirée, nous nous sommes rendus à Verki, petite ville située à 1 heure de Vilna, où normalement les Juifs n'ont pas le droit d'habiter. Là, notre ami Ben Jacob a loué, en transgressant la loi, une petite maison d'été. Compte tenu des conditions de transport qui règnent dans ce coin perdu de la province russe, c'est vraiment le bout du monde. Il y avait dans cette maison environ 50 invités. Je sentais que ces gens-là faisaient tout pour me témoigner leur affection. Mais ce qui me toucha encore davantage, ce furent les spectateurs non invités qui, soudain, dans la nuit, se rassemblèrent à l'extérieur sous les fenêtres de la véranda. C'étaient des pauvres jeunes gens et jeunes filles
qui avait fait à pied pendant 2 heures le chemin depuis Vilna, simplement pour me voir à ce dîner. Ils étaient donc debout, là, dehors, nous regarder manger et écouter nos discours. En même temps, ils assuraient la musique d'accompagnement du repas, car ils s'étaient mis à chanter des chants en hébreu. Ben Jacob, en maître de maison généreux, eut la gentillesse de les faire entrer pour les faire participer au festin. L'un des ouvriers en blouse bleue, qui m'avait frappé par son expression dure et résolue, me surprit en portant un toast au temps futur où régnerait Ameller Herzl, le roi Herzl. C'était ridicule, mais néanmoins, dans cette atmosphère particulière, dans la sombre nuit russe, cela m'impressionna étrangement. Nous rentrâmes à Vilna. Puis, à 1 heure du matin, je me rendis de l'hôtel à la gare. La ville était éveillée, car tout le monde guettait mon départ. Et voilà, ce fut la fin de mon expédition en Russie. Ton ami de toujours, Théodore. Inspiré du journal de Théodore Herzl, traduit de l'allemand par Paul Kessler, et de la biographie consacrée par Serge-Alain Rosenblum, sur des musiques originales de Frédéric Schumann et Freddy Mink, un mixage réalisé par Xavier Dreyfus, un visuel conçu par Fabienne Wacknin, l'idée originale du podcast a été développée par Patrice Kemoun.